Le rendez-vous conso sur RCN avec l'UFC Que Choisir.
Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous conso avec Odette de l'UFC Que Choisir. Bonjour Odette.
Bonjour Thomas.
Comment allez-vous?
Ça va très bien.
Bon, alors aujourd'hui nous allons parler ensemble du dépôt de garantie. Pourquoi?
Alors pourquoi? Parce qu'effectivement on est en période de rentrée, il y a pas mal de changements dans les locations d'appartements, donc c'est le moment où on doit verser le dépôt de garantie ou se le faire rembourser selon qu'on entre ou qu'on sort de l'appartement.
Alors vous parlez de dépôt de garantie, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est quoi?
Alors le dépôt de garantie, en fait on l'appelle souvent à tort une caution. On parle de la caution,
oui,
alors
vrai.
Que voilà, la caution c'est pas le terme exact. Donc c'est une somme qui est versée au propriétaire, donc on parlera plutôt de bailleur, donc au propriétaire ou à l'agence immobilière. Par le locataire.
Et à quoi sert cette somme d'argent?
Alors, elle va permettre de garantir le paiement des sommes dont le locataire pourrait être redevable envers le bailleur, en vertu du contrat, donc normalement les loyers qui ne seraient pas payés, ou les réparations locatives si effectivement il y a des dégâts quand le locataire va quitter les lieux. Ou dont le bailleur pourrait être tenu de verser pour le compte du locataire, par exemple, il y a des impôts, des taxes, etc., que le propriétaire avance et qu'il récupère après sur le locataire. Et bon, il y a quelques cas pour lesquels la loi interdit de pouvoir exiger un dépôt de garantie. C'est vraiment très, très minime. C'est donc un bail particulier qui s'appelle le bail mobilité. Ce sont des locations de courte durée d'un appartement meublé dans le cadre donc, c'est d'un stage, des étudiants, des services civiques, des stages professionnels, etc. C'est vraiment quelque chose de très à part dans,
c'est
dans
quoi,
les
bons. C'est des durées très courtes, c'est ça?
C'est des durées assez courtes, oui, tout à fait. Et alors c'est aussi le cas si le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à 2 mois. C'est-à-dire qu'on a aussi certains baux qui prévoient ça, mais c'est vraiment une niche, c'est très très peu. Mais dans la majeure partie des cas, effectivement, le dépôt de garantie doit être versé à la signature du bail.
D'accord.
Il doit être joint.
Et qui doit le verser, ce fameux dépôt de garantie?
Alors en principe, c'est le locataire qui le verse, puisque voilà, quand il va signer le bail. Alors il existe aujourd'hui, la loi prévoit qu'un tiers puisse verser le dépôt de garantie. Alors par exemple, il y a des organismes tels qu'Action Logement, avec le système Locapass, ou le Fonds de Solidarité pour le Logement. Donc ce sont des organismes qui en fait vont verser le dépôt de garantie à la place du locataire.
D'accord.
Charge à eux de récupérer après ou de... Voilà, de
oui, donc il existe en tout cas ces dispositifs qui permettent de trouver quand même quelqu'un pour être garant finalement.
Oui.
Et quel est le montant du dépôt de garantie en général?
Alors le montant, il va être limité par la loi. Donc pour un logement vide, c'est un mois de loyer, loyer hors charge et taxe. Hein, donc c'est le prix du loyer maximum.
D'accord.
Ça peut être moins hein, si le propriétaire ne veut pas
faire
un cadeau, etc.
C'est le bailleur qui décide.
Voilà, c'est un maximum. Et pour un logement meublé, ça va être 2 mois de loyer maximum.
D'accord.
Alors, on ne peut pas réclamer d'autres choses par le bailleur. Si c'est le cas, donc il n'y a pas de sanction qui est prévue expressément par les textes, mais le locataire peut refuser et ça ne remet pas en cause le bail qu'il a signé. C'est-à-dire que si le propriétaire dit il faudrait me donner 3 mois, etc., le locataire il dira non, mais le bail restera valable.
Oui, dès lors qu'il y a un dépôt de garantie qui est sous le mois ou sous les 2 mois, selon que l'appartement est meublé ou pas, dans ces cas-là, effectivement, on remet pas en cause le bail si on veut pas payer plus.
Exactement. Le propriétaire ne peut pas, au cours du bail, augmenter le dépôt de garantie. C'est-à-dire, par exemple, il y a un renouvellement au bout de 3 ans. Il ne veut pas dire, écoutez, les prix ont augmenté, etc. Il faut me verser un montant de garantie plus important. Non, il a été versé au départ du bail et il est fixe définitif.
D'accord. Et quand et comment doit être versé le dépôt de garantie?
Alors, donc, comme je le disais, il doit être versé au moment de la signature du bail. Il est effectué par la remise d'une somme d'argent, donc pas d'objet, pas de valeur, etc. C'est vraiment une somme d'argent.
D'accord. Alors,
voilà, ça peut être différentes formes, donc chèque, virement, espèce, c'est pas précisé dans la loi, donc peu importe.
Oui, il n'y a pas, d'accord.
Non, tout à fait.
Ok. Et est-ce qu'il peut être encaissé ce dépôt de garantie?
Alors effectivement, s'il est payé par chèque, on aurait tendance à dire, c'est le chèque, comme quand on laisse une caution, par exemple, une voiture ou etc., le chèque n'est pas forcément encaissé.
Oui.
Quand il s'agit du dépôt de garantie, oui, bien sûr, parce que finalement le loyer, le bail va être généralement supérieur à 1 an. Et donc
et
au bout d'un an,
chèque.
Le chèque ne serait plus valable. Donc là, effectivement, il est prévu que le dépôt de garantie doit être encaissé par le propriétaire. C'est bien le propriétaire qui l'encaisse et qui le garde. C'est pas mis chez un tiers, un notaire, une agence, etc.
Et du coup, il devra le rendre à la fin, effectivement, si tout s'est bien passé.
Exactement.
Et justement, puisqu'on parle de restitution, quelles sont les modalités de restitution, notamment qui a la charge de la restitution ?
Alors, il peut y avoir plusieurs questions qui peuvent se poser. Donc, par exemple, il y a un changement de propriétaire entre le moment où j'ai signé le bail et le moment où je quitte l'appartement. Si le propriétaire a changé durant la durée du bail, donc soit par suite à la vente de l'appartement, soit une donation, soit une succession, la restitution du dépôt de garantie, c'est toujours le nouveau bailleur. C'est-à-dire que le locataire, lui, il avait un propriétaire qui était Monsieur X, même si ça a changé, c'est Monsieur Y, c'est Monsieur Y qui va...
D'accord.
Voilà, quand il va faire...
Oui, il est déposé une fois au début, et après, quel que soit le propriétaire qui ait pu arriver entre-temps, il a été déposé, donc il doit être rendu par celui qui est propriétaire
au moment.
Tout à fait,
par celui à qui on va dénoncer le bail et qui va le rembourser. Il y a aussi, donc, si le mandataire ou le bailleur, c'est-à-dire... Il n'y a que le bailleur qui a l'obligation de restituer le dépôt de garantie. Donc le mandataire, ça peut être une agence immobilière.
Hein. D'accord.
Mais en fait, c'est le propriétaire qui doit le faire.
Alors,
quand on a effectivement signé un bail avec une agence immobilière, en pratique, c'est elle qui va faire le nécessaire. Mais c'est le propriétaire qui va le reverser. Ce n'est pas elle en tant qu'agence.
Oui, elle,
c'est
elle est intermédiaire en fait. Ouais. Le locataire peut-il compenser son dernier mois de loyer, puisqu'on l'a vu, le dépôt de garantie pouvait être d'un mois. Est-ce qu'il peut dire, bah voilà, je ne paye pas mon dernier mois et c'est mon dépôt de garantie qui alors, sert de loyer.
Alors c'est souvent ce qu'on aurait l'intention de faire en disant bah pour être sûr de le récupérer, comme ça je ne paye pas mon dernier moyen de loyer et comme ça je suis sûr j'aurai récupéré. Alors la loi précise que non. Le locataire est tenu de payer le loyer jusqu'à la date d'effet donc, du congé, donc, c'est-à-dire quand il va donner son préavis, il doit payer jusqu'à la fin, jusqu'au moment où il remet les clés. Et il ne peut pas décider donc, de son propre chef de s'abstenir de payer le dernier mois en disant bah, comme ça j'ai récupéré mon argent et je suis sûr que... Il n'y aura pas de problème.
Ouais. Et alors, la restitution, elle doit avoir lieu à quel moment ?
Alors, le point de départ pour rendre le dépôt de garantie, c'est le point de départ du délai, c'est la remise des clés. C'est vraiment là où le contrat s'arrête, la remise des clés par le locataire. Donc, la remise des clés, le texte prévoit qu'elle peut se faire soit par lettre recommandée avec accusé de réception, si effectivement on n'a pas un contact avec le propriétaire, ou soit par remise en main propre, donc au propriétaire ou à l'agence si on a traité avec une agence. En pratique, très souvent, la restitution des clés, elle se fait lors de l'état des lieux de sortie. C'est-à-dire qu'effectivement, mon dernier jour, j'ai tout rangé, j'ai tout nettoyé, etc. L'état des lieux de sortie a lieu. Et à ce moment-là, à la fin de l'état des lieux, je vais rendre les clés au propriétaire. Et c'est donc le point de départ. Et donc, à partir de ce point de départ, de ce délai, le bailleur a un délai de 2 mois pour restituer le dépôt de garantie.
D'accord.
Donc, par exemple, j'ai remis les clés le 2 octobre. Le dépôt de garantie doit être restitué jusqu'au 2 décembre.
D'accord. Est-ce qu'il y a des exceptions ?
Alors oui, le délai est réduit à 1 mois si l'état des lieux de sortie est conforme en tout point avec l'état des lieux d'entrée, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a aucune dégradation et travaux de remise en état, donc ça c'est très important, on en reparlera un tout petit peu après de ces fameux états des lieux.
D'accord.
Dans les immeubles collectifs, donc notamment les copropriétés, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoires. C'est-à-dire qu'effectivement, dans une copropriété, on a des charges qui sont payées. Il y a des avances sur charges et après, le reliquat est payé dans une année. Donc, quand le locataire va partir, peut-être qu'on ne connaît pas encore le montant exact des charges. Donc, le propriétaire peut conserver une provision qui est de maximum 20% et qui va lui permettre effectivement de payer les charges éventuelles.
D'accord.
Ou sinon, de rembourser s'il n'y a pas quelque chose à payer.
Donc on comprend bien qu'effectivement, il y a quand même 2 exceptions si on résume. La première, effectivement, on rend l'appartement exactement dans l'état dans lequel on l'a trouvé. Là, c'est 1 seul mois. Et par contre, si effectivement on est dans une copropriété, on peut avoir un délai plus long avec une reprise de 20%.
Alors, c'est pas un délai plus long, c'est-à-dire qu'effectivement, le propriétaire va verser dans les 2 mois, mais il va garder 20% qui va permettre de payer
les charges
éventuellement la régularisation.
Quelles sont les sanctions en cas de non-restitution dans les délais, puisqu'on a parlé de ces délais, justement ?
Oui, alors dans ce cas, donc, le dépôt de garantie est majoré d'une somme égale à 10% du loyer mensuel pour chaque période mensuelle. C'est-à-dire pour chaque mois, il va payer 10% de plus de majoration. Donc c'est quand même très intéressant.
Ouais.
Souvent, il faut les demander parce que ça ne se fait pas spontanément par le propriétaire.
Évidemment, ouais. Donc il faut bien retenir 2 mois quand même. Après, vous pouvez commencer à réclamer effectivement cette pénalité.
Tout à fait. Donc, mais par contre, la pénalité ne s'applique pas lorsque la restitution a été retardée par l'absence de transmission par le locataire de sa nouvelle adresse. Parce qu'effectivement, le locataire, il doit donner sa nouvelle adresse pour que le propriétaire puisse lui envoyer le chèque, ou etc. Et quelquefois, il oublie, et là, je n'ai pas touché, mais s'il n'a pas donné son adresse, ce n'était pas possible. Donc là, il n'y a pas de pénalité pour le propriétaire.
Oui, parce qu'il ne pouvait pas effectivement reverser.
Il pouvait pas le faire.
Maintenant, on a vu pour les locataires, mais il y a la colocation, comment ça se passe dans ces cas-là?
Alors, pour les colocations, donc, le dépôt de garantie n'est pas divisible, même dans le cas où le bail est consenti à des copreneurs, parce qu'en fait, on a un seul bail, avec plusieurs personnes dans le bail qui sont des colocataires. Et donc, il doit demeurer en totalité entre les mains du bailleur. Donc, c'est-à-dire que ce qui a été versé au départ va rester jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au départ du dernier colocataire.
Ah oui. Et alors, comment elle se fait cette restitution? Parce qu'on le comprend bien, si c'est un locataire unique, bah, il récupère la totalité de sa somme. Mais là, la colocation, on le voit bien, c'est plus compliqué. Comment ça se gère, la restitution?
La restitution, c'est-à-dire les colocataires, il va falloir qu'ils s'arrangent entre eux.
Entre eux, ah voilà, c'est ça.
Mais sinon, alors, la restitution, en règle générale, donc, elle va être de la même forme que le versement, c'est-à-dire un remboursement d'une somme d'argent. Et alors, il a été précisé quand même que si, par hasard, c'est une location qui a duré très longtemps, si le dépôt de garantie avait été fait en France, il est bien évident que le remboursement va se faire en euros et pas en francs.
Oui, effectivement, c'est plutôt bien de le préciser.
Voilà,
parce qu'il n'y a plus trop de baby-foot qui prennent les pièces de 5 francs.
Non.
Peut-il y avoir des retenues?
Alors oui, le bailleur peut retenir les sommes qui lui sont dues ou qu'il pourrait être tenu de verser. Donc par exemple, s'il y a des impayés de loyer, donc, même si ce n'est pas volontaire, ce n'est pas forcément le dernier loyer, mais s'il y a des impayés, il va les déduire de ce qu'il doit rembourser. Les charges éventuelles, on en a parlé, régularisation de charges, des taxes éventuelles. Et puis, c'est ce qui fait souvent litige, c'est les réparations locatives ou les dégradations. Ouais. Et c'est là où effectivement... Donc le bailleur doit justifier, c'est-à-dire qu'il ne peut pas dire je ne rembourse pas parce que ce n'était pas propre ou je ne rembourse pas parce que c'était abîmé, etc. Il va falloir qu'il justifie pourquoi il ne rembourse pas la totalité.
Et alors justement, est-ce que un simple devis est suffisant pour retenir ce dépôt de garantie? Est-ce que voilà, on peut dire voilà, j'ai fait faire un devis de peinture, donc je ne vous rends pas votre garantie?
Alors, c'est quelque chose qui n'est pas très connu. Généralement, effectivement, le locataire qui s'en va, il se dit mais moi je ne repayerai que si j'ai une facture. Donc en fait, non. Le devis est suffisant pour retenir un dépôt de garantie. La retenue peut être justifiée par tous les moyens, donc devis, relevé de charges de syndic, etc. Donc tout ce qui prouve qu'effectivement il peut y avoir. Le propriétaire n'a pas l'obligation de produire de facture de travaux acquittée pour lui pour justifier le montant de la retenue effectuée. D'ailleurs, il n'est pas obligé de faire des travaux. C'est aussi quelque chose qui est très mal connu, effectivement. Propriétaire, il y a eu une dégradation, c'est-à-dire qu'entre l'entrée et la sortie, il y a eu une dégradation. Le propriétaire, il dit, c'est constaté dans l'état des lieux, mais il n'est pas obligé de faire des travaux. Ça veut dire qu'effectivement, le locataire qui viendra après, dans son état des lieux d'entrée, ça ne va pas être impeccable, puisqu'il y aura des choses. Mais ce n'est pas une obligation. Et malgré tout, donc sans travaux faits, le locataire sortant est obligé de payer le montant du devis.
De réparation de ces dégâts, effectivement, même s'ils ne sont pas effectués.
Tout à fait.
Et c'est quoi les principaux litiges qui sont liés au dépôt de garantie?
Alors, ça peut concerner le délai de restitution de dépôt de garantie, mais la plupart portent sur... Alors, c'est surtout, effectivement, ça fait plus de 2 mois que je suis partie, j'ai pas retouché mon dépôt de garantie, etc. C'est effectivement le genre de dossier qu'on a quelquefois. C'est pas le plus grave. La plupart portent sur des retenues effectuées par le bailleur et sont dues en particulier aux problèmes liés à l'état des lieux. Et là, d'où l'importance, effectivement, des états des lieux d'entrée et des états des lieux de sortie. Sachant que normalement, l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie devraient avoir la même forme, c'est-à-dire qu'on va y retrouver les mêmes renseignements. Et l'idéal, c'est même quand on a l'état des lieux de sortie qui est fait sur le même document, c'est-à-dire qu'on aura une colonne d'entrée, une colonne de sortie,
ça, on peut comparer
et c'est
vraiment,
très facile de comparer. Alors, il y a un gros problème aujourd'hui, c'est qu'effectivement, dans de nombreux cas, l'état des lieux, il est saisi sur une tablette et on demande au locataire de signer sur la tablette, donc il ne voit pas ce qu'il signe. Et c'est là où, effectivement, on a pas mal de litiges, parce qu'effectivement, on a signé quelque chose, et puis après, on se rend compte que c'était pas du tout, ça correspondait pas.
Et est-ce à dire que, du coup, il ne faut pas signer sur tablette?
Alors, on peut signer sur tablette. Par contre, donc, il faut être très, très attentif à ce que l'état des lieux d'entrée qui doit être remis au locataire avec son bail. Donc, il faut déjà, quand on entre dans l'appartement, exiger d'avoir un état des lieux écrit, et pas se dire seulement j'ai signé sur une tablette et je ne sais pas ce que j'ai signé. Il faut vérifier qu'il est fidèle à l'état de l'appartement, donc autant à l'entrée qu'à la sortie. Il faut, alors ça c'est surtout à la sortie, bien faire noter toute anomalie existante. Enfin, c'est vrai aussi pour l'entrée, quand on constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le faire noter effectivement sur l'état des lieux.
Pour pas que ça vous soit reproché après au moment de la
sortie.
C'est
ça qui effectivement va déterminer tout le reste. Et donc, il pourrait donner lieu à demande de réparation à la sortie si ça n'a pas marqué, été marqué à l'entrée. S'il n'y a rien d'indiqué, ça veut dire que
bien
c'était
nickel. En bon état.
Voilà, c'était en très bon état. Donc, ne pas signer sur la tablette sans avoir pu vérifier ce qui a été indiqué, c'est-à-dire qu'on peut signer sur la tablette, mais il faut demander à avoir déjà lu avant, et pas juste dire bah, « vous me signez
oui,
là,
vous signez en bas,
comme
ouais.
ça, c'est quelquefois le cas ». Enfin, si l'état des lieux de sortie fait ressortir des dégradations par rapport à l'état des lieux d'entrée, donc il faut vérifier que les travaux qui sont remis, qui sont prévus par le devis, puisqu'on a dit qu'effectivement le propriétaire va donner un devis, ça correspond bien aux points qui ont été notés sur l'état des lieux. Et que le propriétaire ne va pas en profiter pour refaire
pour
un neuf,
voilà,
pour modifier des choses, etc. Donc il faut vraiment être très très attentif au devis, à ce qu'il y a dedans. Il doit être très détaillé, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un montant société de peinture, etc. Ouais. Devis, temps pour appartement. Il faut qu'il y ait une description et que cette description, les travaux, correspondent bien à ce qui a été dégradé.
Donc être vraiment attentif effectivement à ce qu'on signe ou à ce qu'on reçoit comme document.
Tout à fait.
On l'entend bien. Ouais. J'imagine qu'on peut se tourner vers l'UFC que choisir.
Alors si oui, il y a aussi un autre organisme. Pour tous les conseils, pour tout ce qui est l'immobilier, il y a un organisme public qui est l'association nationale d'information sur le logement ou dans chaque département, une association départementale qui donne des conseils gratuitement. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire contrairement à nous, ils ne vont pas intervenir auprès du propriétaire. Par contre, ils vont dire à la personne qui vient les voir voilà quels sont vos droits, etc. Voilà ce qu'il faut faire. Par contre, effectivement, nous, on reçoit toute personne qui a un litige avec son propriétaire, à condition que ce soit un propriétaire personne morale. C'est-à-dire qu'on n'intervient pas entre un propriétaire particulier et un locataire particulier.
Ouais, d'accord.
Ouais. On donne des conseils, mais on ne peut pas intervenir, on n'a pas le droit.
Ok, très bien. On l'a bien noté. Et puis évidemment, vous pouvez retrouver tous les conseils qu'on vient de vous donner sur le site internet www.rcn-radio.org en réécoutant la chronique. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à contacter l'ADIL, on le redit.
L'ADIL, voilà, tout à fait.
Et puis, si vous avez des questions avec un bailleur moral, l'UFC Que Choisir.
Tout à fait, on peut prendre rendez-vous sur notre site nancy.ufcquechoisir.fr. On peut effectivement aussi par téléphone, on reçoit effectivement sur rendez-vous donc à Nancy et dans d'autres lieux du département. Ou des départements voisins.
Eh ben merci beaucoup Odette pour tous ces renseignements. Je vous souhaite une belle fin de journée et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous conso.
À la semaine prochaine.
C'était le rendez-vous conso sur RCN avec l'UFC Que Choisir.